On écoute Daniel Ben Saïd.
Moi, je crois qu'il faut quand même repartir de la gravité de la crise. D'abord, pour en mesurer peut-être plus qu'on ne le fait la portée. Pour l'anecdote, Tony Blair, dont on connaît le rôle qu'il a pu jouer dans les dernières années, dans une interview qu'il donnait en décembre au JDD, répondait à la question « Peut-on encore croire au capitalisme ?» Réponse « On peut comprendre que les gens n'y croient plus. Bon. » En effet, on peut le comprendre, mais en étant conscient qu'on n'est encore qu'au début de cette crise-là, on commence maintenant, mois après mois, à comptabiliser, notamment en termes de chômage et de charrettes de chômage, ou dans certains pays d'expulsion, et pas seulement en France avec Hortefeux ou Besson, mais d'expulsion massive d'étrangers, de travailleurs, par exemple, andins en Espagne. Et après toute une période où les économistes annonçaient, mois après mois, la sortie de crise, l'embellie, que le pire était passé, finalement, si on regardait, sans être économiste, toutes les déclarations successives, la seule constante de ces déclarations, c'était de dire qu'ils avaient été trop optimistes un mois avant. Et c'est sûrement pas fini. Alors aujourd'hui, le ton a quand même un peu changé, et certains vont jusqu'à évoquer un risque de désintégration mondiale, avec, y compris, des agences, vous avez eu ça dans Le Monde il y a une semaine, des agences d'observation sur la dynamique européenne, qui s'alarme, peut-être souhaitant-le excessivement, mais sur les dangers de guerre, voire de guerre civile, en mettant l'attention sur des pays où il y a beaucoup d'armes en circulation, aujourd'hui les contrebandes, la privatisation de la violence avec de plus en plus d'officines privées qui ont des droits au port d'armes ou à l'intervention armée. Hein. Un quart des effectifs de l'intervention occidentale en Irak sont des troupes mercenaires. C'est quand même quelque chose sans précédent aujourd'hui. Et il faut rappeler, ça ne sera pas l'objet central de la discussion, mais quand même pour créer l'arrière-plan de ça, que une bonne partie de la planète, depuis une dizaine d'années, au-delà, mais depuis une dizaine d'années notamment, est en état de guerre. Et que les déclarations qu'avait faites George Bush au lendemain des attentats du 11 septembre, en déclarant la planète en état de guerre illimitée dans le temps et dans l'espace, c'était strictement son discours du 20 septembre 2001, c'était pas rouler des mécaniques, ça correspond à une vraie réalité en termes de priorité budgétaire et d'intervention. Si on regardait la situation pratiquement des Balkans jusqu'au Tibet, vous avez une ligne où vous avez des conflits militaires, en passant par le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, qui sont tout au long de cette grande diagonale-là. Alors, bon, la crise, on ne va pas la décortiquer, ça a été fait, il y a des très bons articles ici et là qui sont publiés, mais quand même rappeler quelques éléments essentiels. D'abord, sur le fait, tout le monde dit « Ah, mais c'est tombé comme ça, c'était imprévisible ». C'était absolument pas imprévisible. Bon, on ne va pas citer des bons économistes qui l'avaient évoqué, personne ne pouvait prévoir évidemment ni le commencement, ni la date et l'heure, mais on pouvait parfaitement dire que quand les actionnaires ou les fonds de pension réclament depuis 15 ans des retours sur investissement de 15% en moyenne, voire plus par an, pour une croissance qui tourne autour de 3 ou 4% dans le meilleur des cas, bon, c'est plus énigmatique que le miracle biblique, évidemment, et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, ça devait exploser, et ça a explosé. Ce qui serait plutôt surprenant, c'est le fait que ça ait mis autant de temps à exploser. Et là, on peut se demander pourquoi. Cette situation, ce décalage finalement entre le gonflement de ce qu'on a appelé maintenant la bulle financière et la réalité de la production et de la consommation, pourquoi ce grand écart a mis autant de temps à aboutir à la déchirure? Alors là, bon, il y a eu un débat, certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans Libé la semaine dernière. On a, et pas nous exclusivement, aujourd'hui c'est une idée largement reconnue, on est parti de l'idée, ce que Olivier développe depuis déjà 2-3 ans dans les meetings largement, que une des racines du problème, c'est que depuis les contre-réformes libérales de Thatcher, Reagan et des autres qui ont suivi dans les années 80, le partage de la valeur ajoutée entre ce qui revient au capital et ce qui revient au travail a été déplacé de 10% en faveur du capital, donc l'équivalent de quelque chose comme 80 milliards par an. Et ça, en moyenne, pour les pays, disons, développés, les pays de l'OCDE. Alors, il y a des différences. Aux États-Unis, c'est 5%. En France, c'est de l'ordre de 9%. Mais il y a eu un déplacement général, donc, où le capital a regagné au détriment des salaires et du pouvoir d'achat. Ce qui réduit, évidemment, la capacité de consommation, ce qui, logiquement, aurait pu et dû aboutir à une crise bien plus tôt que le moment où elle est arrivée. Les deux éléments qui ont permis de retarder l'échéance, ça a été d'un côté les facilités de crédit qui ont abouti à des taux d'endettement mirobolants. Hein, aux États-Unis, les plafonds ont été crevés sur l'endettement, notamment à l'achat immobilier, ça a été largement commenté. Mais donc, c'est par le crédit qu'on a maintenu la consommation. Mais, et là, il faut parler vraiment de criminels sociaux et pas seulement d'irresponsables. Parce que l'encouragement à ce crédit, d'ailleurs l'encouragement que Sarkozy lui-même se proposait de faire au moment de la campagne électorale, quand il disait qu'il faudrait développer en France, comme aux États-Unis, les crédits hypothécaires sur l'achat au logement, l'accès au logement, etc. C'était en fait de prêter sciemment de l'argent à des gens dont on sait qu'ils sont insolvables, à cacher ses dettes douteuses dans des produits financiers non identifiables. Mais en sachant qu'au bout du compte, quelqu'un devrait payer la note, et les premiers à la payer, c'est ceux qui se retrouvent, vous avez les reportages à la télé aujourd'hui, vidés de leur logement, sur le trottoir, avec des mises en vente aux enchères des logements, comme on le voit y compris dans le centre de New York ou de Londres à l'heure actuelle, où le prix de logement a été divisé par deux en quelques mois. Donc, c'est par le crédit, en gros, d'abord, qu'on a retardé l'échéance. Et par autre chose, ce qui choque beaucoup, et à juste titre, c'est en même temps qu'il y a eu cette compression des salaires, des pensions, des minima sociaux depuis une vingtaine d'années, il y a eu inversement une explosion des revenus financiers, du capital, des parachutes dorés, des dividendes, des salaires de PDG. Alors c'est moralement choquant et très choquant quand on donne les chiffres. Bon, ce qu'a dit Obama à propos des banques américaines qui viennent de toucher des centaines de milliards de renflouements, mais qui se distribue quand même 18 milliards de dividendes. Bon, il a dit, c'est shameful, c'est scandaleux, c'est honteux. Ce que Sarkozy n'a pas dit, par ailleurs, pour les phénomènes analogues en France. Mais, outre le fait que c'est scandaleux, c'était en même temps utile pour le capital. Parce que ça a permis de créer un secteur de surconsommation, de consommation pour riches, avec une flambée de construction, de quartiers réservés, de produits de luxe, etc. Qui ont créé un secteur de consommation. Bon, quand on produit, il faut vendre, et si les pauvres ne peuvent plus acheter, les riches sont aussi un marché dans ce cas-là. Donc c'est les deux mécanismes par lesquels l'échéance de la crise, disons, a été retardée, mais les gens qui ont mis en branle ce système de crédit, on ne peut pas être aveugle à ce point-là, sont pas seulement des incompétents ou des irresponsables, comme on l'entend, mais délibérément des criminels sociaux. Ça relève de la délinquance financière, mais de la délinquance pure et simple. Bon, alors par rapport à ça, alors sur le fameux partage, pourquoi ça a basculé de 10% en faveur du capital au détriment des salaires ou des revenus du travail ou des pensions? Alors le débat dans Libé était divertissant parce que le gars de Libé, le rédacteur économique de Libé, disait oui, mais on prend comme référence l'année 82. Or l'année 82 était l'année qui était la plus favorable au niveau des salaires. Oui, mais il n'y a pas de loi là-dessus. Pourquoi elle était favorable? Parce que c'était le résultat de 15, 20 ans de lutte des années 60, des années 70, dans la plupart des pays développés, pour grignoter du salaire, des conquêtes sociales et des acquis sociaux, tout simplement. Donc l'année 82, de ce point de vue-là, est une bonne référence pour comparer la dégradation qui s'est produite depuis en un quart de siècle. Alors, maintenant, la deuxième chose qui vient, c'était imprévisible, et deuxièmement, c'est une fatalité. L'économie, c'est comme la météo, on ne peut pas prévoir à plus de 5 jours en météo, et encore avec pas mal d'incertitudes. Mais bon, donc, on ne maîtrise pas. Il y a trop d'inconnus, l'effet papillon, un éternuement à la bourse de New York peut faire effondrer celle de Hong Kong. Bon, c'est totalement un monde magique et miraculeux. En réalité, non. Et là, on est sur un point important. D'abord, on dit, c'est une crise financière. Ce qui se révèle derrière, c'est que la crise financière n'est que le révélateur d'une crise de surproduction. C'est-à-dire qu'on produit trop, non pas par rapport aux besoins sociaux qui sont insatisfaits, on le dit tous les jours, ce qui manque dans la santé, dans l'éducation, etc., ou dans le logement, mais on produit trop par rapport à la capacité d'achat qui a été laminée ou réduite ou comprimée par ailleurs. Bon. Donc ça, c'est le premier problème, disons, auquel on a été confronté. Et par rapport à ça, à un moment donné, la crise financière révèle ce qui était derrière, une crise de surproduction. Ce qui explique que vous avez des annonces, on en voit dans les journaux, à la télé, on vous propose comme incitation à l'achat aujourd'hui, vous achetez un logement, vous aurez une bagnole en prime, ou alors, avant c'était Afflelou qui proposait deux paires de lunettes pour une, maintenant on propose deux bagnoles pour le prix d'une. Bon, c'est le classique des crises où les gens préfèrent vendre, y compris à perte, que de rester avec des stocks sur les bras. Mais ça, c'est le symptôme d'une crise de surproduction. Or, là-dedans, il n'y a pas une fatalité. C'est le résultat d'une série de réformes politiques qui, chaque fois, ont fait l'objet de batailles tout au long de 25 ans, de droite et de gauche. Et en ce qui concerne la France, puisque nous y sommes, il faut rappeler quand même que la dérégulation boursière en 85, c'est sous le ministère des Finances de Bérégovoy, sous un gouvernement socialiste, que la libre circulation financière au niveau européen, c'est en 89 sous le ministère d'économie de Fabius, en anticipant d'un an sur les décisions de l'Union européenne, que la création des stock options dispensées de fiscalité, c'est encore sous un ministère socialiste, et enfin, que de droite et de gauche, tous les gouvernements depuis 25 ans ont avalisé les textes des traités européens qui, au nom de la concurrence libre et non faussée, faisait passer dans les faits et au forcing ces politiques libérales-là. Donc ce n'est pas une fatalité économique. Pour en arriver à ce système-là, il a fallu détruire préalablement des systèmes de protection sociale, d'indexation des salaires comme l'échelle mobile en Italie, des conventions collectives, du droit du travail et les secteurs publics qui fonctionnaient dans la plupart des cas, que ce soit ou partiellement ou totalement, la santé, les transports, l'énergie et les télécommunications. Donc c'est bien une campagne politique qui aboutit à ça, et des responsabilités politiques. Ce n'est pas une fatalité économique, il faut insister là-dessus. Enfin, dernier point sur la crise, après sur les réponses, c'est que cette crise est quand même particulière. Alors vous avez largement le débat, mais enfin on a tous appris, ou on a un vague souvenir de l'école, ou alors des fameux films américains des années 30, où les banquiers sautaient par les fenêtres. Il y avait à l'époque un certain sens de l'honneur qui s'est perdu. Il n'y en a eu qu'un ou deux cette fois-ci qui n'ont pas sauté par les fenêtres, mais ont mis fin à leur jour. Mais le problème, c'est qu'il y a des similitudes par rapport à la crise de 1929, mais il y a surtout aussi des différences qui font que celle-ci peut être plus grave encore. C'est qu'en 1929, dans la plupart des grands pays, États-Unis, européens, etc., l'agriculture représentait encore 30 à 40% de la population active. Donc la crise économique industrielle avait des amortisseurs sociaux, des solidarités familiales, etc., malgré ce qu'on sait sur les soupes populaires, les mouvements de chômeurs de l'époque, etc. Mais il y avait des formes de solidarité, alors qu'aujourd'hui, on est des sociétés où le salariat représente 90% de la population active. Autrement dit, quand le pouvoir d'achat s'effondre, il n'y a pas d'autre recours. Et là, on risque d'avoir une crise dont les effets sociaux sont encore plus spectaculaires, je ne veux pas être trop alarmiste, à certains égards, que ce qui s'est passé dans les années 30, au point que certains économistes sortent la semaine prochaine un petit livre du camarade Isaac Joshua sur la grande crise du 21e siècle, celle-là, à la découverte. C'est que l'hypothèse, ce n'est pas que les crises sont l'exception, c'est que l'exception, ça a été la croissance des 30 années d'après-guerre liée d'une part à la reconstruction et d'autre part au compromis social que les dominants ont été obligés de passer devant la grande peur de tout perdre au lendemain de la guerre s'il y avait eu des crises révolutionnaires, non seulement en Grèce comme ça a été le cas, mais en Italie, en France et à l'échelle européenne.
Voilà, c'est toujours Fréquence Paris pluriel, c'est toujours les oreilles loin du front, et on est toujours avec Daniel Ben Saïd qu'on retrouve dans quelques instants.
Donc, c'est une crise qui a des caractéristiques nouvelles et qui touche, et c'est pour ça que le débat porte sur le capitalisme. Je suis parti de la citation de Tony Blair, qui touche au cœur, en fait, du système capitaliste. Je vais le dire dans un terme de jargon, essayer de faire comprendre. C'est une crise de la loi de la valeur. C'est-à-dire de quoi ? Du fait que dans ce système-là, la mesure de toute la richesse sociale, des rapports entre les êtres humains, des rapports d'échange, c'est le temps de travail. Et que ce temps de travail devient une mesure de plus en plus inadaptée, incohérente, irrationnelle par rapport à des sociétés où la production est hautement socialisée, c'est-à-dire que tous les travaux sont de fait très collectifs. Pour le moindre objet que vous avez entre les mains, essayez d'imaginer combien il a fallu d'interventions, de concepteurs, de petites mains, de transporteurs, etc. Pour le moindre ordinateur, c'est des milliers d'interventions et de travailleurs. Bon. Aujourd'hui, alors vous avez un texte qui circule, ça, s'il y a des enseignants parmi vous, je vous le recommande sur le site de Contretemps, en même temps c'est une pub, mais qui a déjà été visité, 18 000 lectures en une semaine, sur les techniques d'évaluation des enseignants, qui est absolument mirobolant. Comment on essaie de trouver des critères quantitatifs pour mesurer la qualité du travail. Bon, on est dans des absurdités totales. Bon, vous pourrez lire ce que ça amuse. C'est drôle, hein. C'est pas chiant. Ça a l'air un sujet aride, mais c'est très divertissant en réalité. Mais et effectivement, plus il y a de travail intellectuel, d'où le problème des enseignants-chercheurs aujourd'hui, impliqués dans la production, dans la chaîne de production au niveau des laboratoires de conception, etc., plus il devient absurde de mesurer ça en temps d'horloge, en nombre de minutes passées, etc. Or, ça reste la seule mesure aujourd'hui, et elle devient tellement absurde qu'au lieu que les gains de productivité, le fait qu'on puisse produire 10 fois plus en autant de temps, 10 fois plus de voitures, 10 fois plus de montres, etc., dans le même temps qu'il fallait il y a 50 ans pour en produire une seule. Bon, ça, logiquement, enfin, quelqu'un normalement constitué peut imaginer que si on produit la même chose en 10 fois moins de temps, on a libéré du temps pour autre chose, pour du temps libre, pour du loisir, pour de la culture, pour de l'activité politique, pour tout ce que vous voulez. Et au lieu de ça, au lieu de produire du temps libre, utile ou créatif, on produit de l'exclusion, de la précarité et du chômage. Donc il y a une absurdité au cœur même du système. Et c'est la même absurdité qui est au cœur de la crise écologique. C'est impossible aujourd'hui de mesurer en termes monétaires le coût social du changement climatique, de la pollution des océans, du stockage des déchets nucléaires ou de la déforestation. C'est impossible. Il vient de nommer d'ailleurs un banquier pour essayer d'évaluer le coût en termes monétaires de la perte de biodiversité. Un certain cas qui était le président de la Deutsche Bank à Bombay a été nommé par l'Union européenne pour essayer de donner une traduction monétaire à tout ça. Bonne chance s'il y arrive. On verra bien, mais ça montre l'absurdité de ce système-là. Or, c'est ça qui est en crise aujourd'hui. Alors, pourquoi je suis parti de là? Ça a l'air assez loin de nos préoccupations. Et parce que ce qui va nous guider dans la construction du NPA, une série de choix, c'est quand même de prendre la mesure, effectivement, de ce qui est en jeu, du type de réponse nécessaire à y apporter, et en fonction de ça, de tracer un chemin sur la longue durée. Je terminerai tout à l'heure par là. On est au début d'une reconstruction. Au tout début d'une reconstruction de quelque chose, après une grande défaite des espérances des mouvements sociaux du XXe siècle. C'est une grande défaite, si on regardait l'espoir qu'il pouvait y avoir au début des années 1900, etc. Non, la défaite, ce n'est pas seulement une défaite idéologique, on a le blues, etc. C'est qu'il y a eu un doublement de la main-d'œuvre disponible sur le marché mondial du travail dans les 15 dernières années, avec l'irruption massive de la main-d'œuvre chinoise, indienne, d'Europe de l'Est, qui ne sont pas la faute des travailleurs en question, mais qui font irruption avec pratiquement pas de droits sociaux. Donc un marché mondial du travail dérégulé, fortement compétitif et qui tire à la baisse, évidemment, les conditions de négociation de tous. Donc il faut reconstruire des rapports de force. On est au tout début de ça. Au tout début de ça. Alors, par rapport à ça, les réponses aujourd'hui à la crise. Alors certains ont dit, ouais, mais alors NPA, d'ailleurs, peut-être moi le premier, hein, anticapitaliste, c'est pas mirobolant, ça fait pas rêver, c'est anti, c'est pas pour, etc. Bon, il se trouve qu'effectivement, au début, c'était pas prévu pour être un nom qui dure, mais une première approche. Et puis finalement, la crise a donné une certaine actualité, un certain sens à tout ça. Il y a eu un colloque le 8 janvier à l'initiative du secrétariat d'État à la prospective, celui dont est en charge Madame Kosciusko-Morizet maintenant. Et bon, deux échantillons de déclarations dans ce colloque international de haute volée avec Angela Merkel, etc. Alors, Sarkozy, la crise du capitalisme financier n'est pas celle du capitalisme. Elle n'appelle pas la destruction du capitalisme, qui serait une catastrophe, mais sa moralisation. Et Michel Rocard, à la rescousse, il faut commencer par cela, nous voulons sauver le capitalisme. Bon. Donc ça, c'est une ligne. Hein. Et c'est aussi la traduction d'une angoisse. Il faut sauver le capitalisme. Nous, on dit non, il faut le détruire et le renverser. Bon, au moins, c'est une ligne de partage des eaux qui a le mérite de la clarté. Après, il faut discuter comment, dans quel sens, pourquoi faire. Mais on est bien dans cette opposition-là. Alors, sur les mesures qui sont proposées, en gros, il y a toute une batterie de mesures dans les mesures de relance actuelles qui consistent à dire ce qu'il faut faire, c'est corriger les excès du système et le moraliser. Là encore, bonne chance, le capitalisme est immoral par définition. Ce n'est pas polémique ce que je dis. Hein. Si la morale, même pas pour un marxiste, mais ce qu'on apprend dans les cours de terminale, c'est de prendre son prochain jamais comme moyen, mais toujours comme fin. Pour le capitalisme, l'être humain est toujours un moyen, jamais une fin. C'est toujours une variable d'ajustement, un produit jetable, exploitable, etc. Mais c'est jamais le but de la société d'enrichir ou de rendre heureux, mais de se servir des gens. Donc ça, c'est mission impossible, moraliser. Et d'ailleurs, les mesures homéopathiques qui sont prises, on a vu que même, dès qu'il a été question même de plafonner les revenus des PDG d'entreprises, comme aux États-Unis, hein, qui n'est pas un pays en révolution, loin de là, Laurence Parisot a poussé des cris d'orfraie aussitôt. Les parachutes dorés, il a été question de les réguler par une mesure législative, donc de l'État. Le MEDEF a dit aussitôt « Laissez-nous faire, on va s'en occuper nous-mêmes, mais surtout pas de loi ». Autrement dit, laisser le MEDEF gérer les parachutes dorés, les indemnités de départ, c'est comme laisser la mafia gérer les ordures napolitaines avec les résultats qu'on sait, ou à peu près. Et rien, ou pratiquement rien, sur les paradis fiscaux. Bon, donc ça, c'est des mesures de correction à la marge, d'image, qui ne changent rien à la logique et qui surtout reportent les échéances. Parce que ce qui est injecté, ce qui vous hallucine comme moi, hein, on ne compte plus les milliards. Bon, les caisses étaient vides il y a un an. Là, on ne compte plus les milliards, on ne comprend plus très bien d'où ils viennent, où ils vont, etc. On sait qu'il y en a beaucoup, par centaines, par milliers, etc. Mais il faudra bien les sortir de quelque part. Autrement dit, là, on est passé de l'endettement privé à l'endettement public, et avec des craintes qui commencent à s'exprimer de plus en plus dans la presse, c'est qu'après les faillites de banques, des États puissent faire faillite. C'est difficile à imaginer, mais parce que maintenant, c'est des dettes d'État. C'est les États qui prennent et qui se portent garant. Alors, les plus fragiles, on voit déjà, bon, la Grèce, l'Italie, etc. On se demande si les États seront solvables. Et les banquiers qui prêtent aux États, parce qu'on renfloue les banques, mais c'est quand même les banques après qui prêtent aux États, ou alors c'est la planche à monnaie qui fonctionne à vide, mais quand les banques prêtent aux États, elles font monter les intérêts. Plus les États apparaissent fragiles, plus ils devront payer des intérêts aux banquiers qui leur prêtent. Donc on est dans une spirale d'endettement, ce qui fait que ce n'est pas une vision gauchiste que de dire, ça en est aujourd'hui plein les journaux, qu'après la bulle financière, maintenant il risque d'y avoir une bulle des obligations d'État, c'est-à-dire des dettes d'État, avec des États qui deviennent eux-mêmes insolvables. Et là, plus personne ne sait où ça va. Donc on reporte l'échéance, on ne résout pas du tout le problème. Par rapport à ça, ce qui apparaît comme plus radical, on entend des termes un peu en évoquant justement l'image des années 30, un New Deal, un keynésianisme européen, autrement dit, remettre une intervention de l'État massive, recréer du pouvoir d'achat, renationaliser les banques, etc. Bon, en même temps, ça c'est de l'ordre du discours. Mais du point de vue pratique, si on regarde par exemple ce qu'a été le plan de relance du Parti socialiste, il a consisté à une augmentation du SMIC de 1 euro par jour, de 300 euros par an, rien sur la remise en cause des traités européens et des critères de convergence en termes budgétaires, en termes de déficit public, etc., et aucune mesure de vraie nationalisation des banques proposée dans le plan de relance socialiste. Or, c'est quand même le minimum. Jean-Marie Messier, qui curieusement refait son apparition, sort du purgatoire à l'occasion de la crise en disant « Moi, j'en ai fait l'expérience avant, donc je peux en parler en toute sagesse. » Messier dit très cyniquement dans la tribune hein, « Voilà, il faut sauver l'économie et les banques, ça c'est l'urgence. Mais après, il faut prévoir de refermer le parapluie une fois la tempête passée, au moins, parce que l'État ne devrait être... Messie à ses heures est aussi un poète, ne devrait être qu'un passager de la pluie. Bon, on ne peut pas dire les choses plus clairement. Autrement dit, l'État, c'est l'assurance tout risque dans les périodes de faillite et de banqueroute. Mais dès que ça redevient rentable, il faut surtout rendre... Donc, il ne s'agit pas de nationalisation. Je vais y venir, mais nous, on pense que c'est évident. Si, comme le disent y compris certains économistes libéraux, le secteur financier, le secteur bancaire et de crédit dans son ensemble... Est, ou joue le rôle d'un service public, bon, pour le crédit, au logement, à la construction, à l'investissement, etc., il devrait logiquement être sous contrôle public. Ça n'a rien de forcené de dire un service public nationalisé de crédit bancaire unifié qui assure une transparence sur les mouvements de capitaux, sur ce qui se déplace à l'étranger, etc. C'est élémentaire par rapport à la crise aujourd'hui. Or, tout ça n'est pas même, et parce que, évidemment, même des mesures, on a vu comment la Commission européenne a réagi à la relance ou à ce qui était mis dans le secteur automobile, ou ce qui devait être mis, hein, ça fausse la concurrence, mais prendre des mesures un tant soit peu énergiques contre la crise aujourd'hui, immédiatement suppose de renverser complètement toute la construction du traité de Lisbonne, du traité de Maastricht, etc. Or, ce n'est pas du tout aujourd'hui la position de la social-démocratie européenne qui, au contraire, dit qu'on peut assouplir temporairement, mais qu'il faut tenir bon dans ce cadre-là. Autrement dit, pour nous, une véritable, ce qu'on pourrait appeler une relance anticapitaliste, finalement, ça passe d'abord par ce qu'on a appelé, sans en avoir l'originalité, Jean-Marie Arribé dans l'attaque, etc., un bouclier social, c'est-à-dire ce qui répond non pas à ce que le capital prétend être en condition de faire, mais ce qui apparaît nécessaire. Et là-dessus, effectivement, le modèle de la Guadeloupe, des Antilles ou de la Réunion, c'est pas un calcul. Est-ce que les patrons peuvent, etc. On part des besoins. Vu la cherté de la vie, vu la dégradation des conditions de vie, ça a été les 200 euros en Guadeloupe, les 300 euros en Martinique, etc. Et avec une lutte qui, grâce à l'unité et en se préparant à une lutte dans la durée, on était un peu surpris quand même d'une grève de 6 semaines. Je vous signale, ce n'est pas le secteur le plus bouillant en France, mais qu'on en est à 6 semaines de grève universitaire, on n'en parle pas beaucoup, les journaux considèrent que c'est fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais c'est des mouvements de cette durée-là qu'on va avoir maintenant, si on veut gagner quelque chose. Bon, mais qui suppose effectivement pour durer une très forte unité. Ça, c'était le cas exemplaire. Et la condition de l'unité, c'est la démocratie aussi dans les mouvements. C'est que chacun puisse s'y retrouver et s'y reconnaître. Donc, on ne va pas décliner les créations d'emplois, etc. Mais la première chose, c'est ça. Deuxièmement, c'est effectivement le service public de crédit. Troisièmement, il ne s'agit pas uniquement d'être défensif, mais de profiter de la crise. Certains parlent de capitalisme vert, mais il y a des problèmes qui vont se poser. J'en cite trois, évidemment. L'automobile, on est pour défendre l'emploi tant qu'il n'y a pas de reconversion. On n'est pas pour défendre à tout craint. Donc le problème, c'est la reconversion en partie des industries aujourd'hui de l'automobile au profit d'un redéploiement d'autres types de production et d'autres types de locomotion. Mais donc, il y a une bataille défensive sur l'emploi, mais en même temps, il faut de même sur la transition énergétique. C'est le gros problème du siècle à venir. Les dégâts qu'on fait aujourd'hui, les agrocarburants, pour un cas que je connais un peu, qui est le Brésil, développer les agrocarburants en remplacement du pétrole, ça implique une contre-réforme agraire. Ça veut dire la grande production des grands domaines agricoles au détriment de toute l'économie vivrière et de la production alimentaire de base et locale. Bon, et le troisième cas, et qu'il faut quand même commencer à soulever, parce que Hervé Morin a dit « il y a un secteur en France qui se porte bien », c'était encore dans la tribune, la France a vendu pour 6,5 milliards, tout record battu d'armement en 2008. Et évidemment, dans les périodes de crise, l'économie d'armement, parce que c'est l'État qui avance l'argent, c'est pas le consommateur final, c'est l'État qui est censé payer. Donc, c'est un levier de relance, l'économie d'armement. Mais quand on produit des armes, on finit par s'en servir. Donc, là aussi, sur tout le secteur, et en France, il est absolument central. Hein, d'ailleurs, les mêmes qui sont dans l'armement sont dans les tuyaux et sont dans les médias, Dassault, Lagardère, etc., avec des conflits d'intérêts, quand même. Parce que quand on est à la fois producteur d'armes et producteur d'informations, il y a quelque part un problème de déontologie qui se pose. Bon.
Petit, je croyais beaucoup. Je croyais en regardant passer l'avion dans le ciel que pour aller au ciel, il suffisait de prendre l'avion. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup. Je croyais que tous les pays où se rendait l'avion se trouvaient au ciel. Je croyais que Paris était au ciel. Je croyais que New York était au ciel. Que Bethléem, que Jérusalem était au ciel. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup. Je croyais beaucoup trop. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup. Je croyais que la capitale du ciel, c'était le paradis. Et que le paradis, capitale du ciel, était comme son nom l'indique. Capitaliste, 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 capitaliste. Et que Adam et Ève, couple superstar et chômeur du paradis capitaliste, de la consommation, consommait beaucoup, consommait beaucoup. Capitaliste de la consommation, regardant tous ceux du bas monde qui avaient, comme son nom l'indique, tous la tête en bas. Forcément, quand on vit sur une boule, les hauts des uns sont les bas des autres, comme les bas des uns sont les hauts des autres. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup. Et comme tous les croyants de mon village, j'allais dans la petite chapelle ardente où on pouvait voir sur les murs bleu ciel la belle image que mon peuple se faisait de la divinité. On pouvait voir les yeux sans visage de Dieu qui voit tout. On pouvait voir les oreilles sans visage de Dieu qui entend tout. Et on pouvait voir la bouche sans visage de Dieu qui console de tout. Et à côté de cette image de la divinité, on pouvait aussi voir sur sa croix le magnifique Christ sur sa croix. Le magnifique Christ sur sa croix. Blanc, blanc, aux yeux bleus. Au pied du Christ sur sa croix, on pouvait aussi voir cette autre image que mon peuple se faisait du diable. Et le diable, il était noir comme tous les noirs du monde. Il avait de grandes cornes comme tous les noirs du monde. Et une longue queue comme tous les noirs du monde. Et je me suis dit que ce diable-là, mais c'est mon frère, c'est moi. Et pour aller dans le paradis capitaliste de la consommation, il fallait que je cesse d'être noir. Et je comprenais pourquoi on chantait dans la petite chapelle ardente. Lave-moi plus blanc que blanc que blanc que blanc. Je comprenais pourquoi certains de mes frères et sœurs portaient leur couleur et leur culture comme un fardeau la croix du Christ. Et je comprenais pourquoi Michael Jackson, en entrant dans le paradis capitaliste de la consommation, était de plus en plus blablabla. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup. Et maintenant, je ne sais
enfin, un dernier point, j'ai laissé tomber la question, bien que ce soit un débat important sur le protectionnisme qui commence à venir, mais on voit aussi les dégâts, c'est-à-dire que dans la crise actuelle, on va avoir, probablement, on peut le regretter ou le redouter, espérons que non, mais une remontée de xénophobie. Peut-être pas sous la forme Le Pen, hein, ça peut passer ailleurs, y compris par le gouvernement, mais c'est clair que jouer sur la variable main-d'œuvre étrangère dans une période de montée du chômage, et on a vu les quelques manifestations en Angleterre sur le travail anglais, etc., d'où d'ailleurs le danger du discours protectionniste. Hein, on passe très vite de acheter américain la motion du Sénat des États-Unis à travailler américain. Et là, donc, sur tout ce qui est solidarité, sans papier, etc., c'est pas une bataille qui est derrière. Elle va être encore plus violente aujourd'hui et on peut s'attendre à des remontées de xénophobie et de mouvements d'extrême droite dans différents pays européens. Et pas se rassurer par le fait qu'en France, Le Pen a plutôt plongé, mais a plutôt plongé parce que ça s'est déplacé ailleurs, mais ça n'a pas disparu comme fonds de commerce. Bon, enfin, dernier point là-dessus. Pour conclure, parce que bon, il y aurait d'autres questions abordées, effectivement, comme celle du protectionnisme. Mais j'imagine. Alors, c'est le passage de la crise, crise économique, crise sociale, on y est, et on n'est pas au bout du chemin. Hein, quand on a des 100 000 chômeurs de plus qui s'ajoutent mois après mois, bien plus 400 000 en un mois en Espagne, avec une crise immobilière qui est équivalente à la crise américaine, vu les dimensions du pays. Ça, sur la durée, on va ressentir très très vite les effets, ce qui explique d'ailleurs, je crois qu'on est en France à un point d'équilibre limite, où beaucoup de monde est partagé entre la peur du lendemain, et qui est une peur légitime, et la colère devant l'injustice qui est flagrante. Ça se joue entre la peur et la colère, savoir qu'est-ce qui va l'emporter des deux. Alors évidemment, il ne s'agit pas de regarder ça comme la météo, mais ça dépend aussi de ce qu'on fait. Ça dépend aussi de comment on éclaire cette crise-là et quelle perspective on lui donne. Alors, moi je crois que, contrairement, on a vu très vite se déliter le personnage Sarkozy. Il apparaissait à d'aucuns très fort au lendemain de son élection, avec une marge, d'ailleurs sur le plan européen, si on lisait la presse internationale, beaucoup disaient « bon voilà, en France, quelqu'un qui va intervenir, qui est dynamique, qui va mettre de l'énergie, etc. » Si on lit aujourd'hui la presse britannique ou allemande, on commence à être très inquiet sur la fragilité du pouvoir politique en France. Très inquiet. Et effectivement, il y a une vraie fragilité qui s'est manifestée par les reculs et par le fait que le gouvernement aujourd'hui joue de la maîtrise du temps et du calendrier. Réussit pour le moment à éviter la synchronisation des mouvements entre Guadeloupe, Martinique et Réunion. Essaye d'éviter la synchronisation entre les mouvements de l'éducation nationale et de la santé et du secteur hospitalier. On va dire de manière un peu méchante, mais je crois que ça se justifie avec une certaine, non pas complicité, mais de fait inconséquence de la plupart des directions syndicales, qui elles aussi ont leur propre calendrier. Je crois qu'il y avait autre chose à faire entre le 29 janvier et le 19 mars que d'attendre au moment où il y avait justement le temps fort en Guadeloupe, au lendemain du 29 janvier, etc., de reprendre l'initiative beaucoup plus vite. Bon, là, on est en train de gérer un calendrier difficile. Mais en même temps, ce pouvoir est fragilisé. Il a reculé dans le secondaire sur la loi d'Arcos. Bon, il flanque chaque ministère d'un médiateur ou d'une médiatrice pour amuser le tapis. On réécrit des textes en essayant d'étirer le calendrier en longueur. On recule sur la réforme Balladur pour ne pas se mettre les régions Picardes ou Bretonnes à dos. Donc il y a des signes de fragilité. Moi, ce qui m'a frappé, je suis allé un peu en curieux militant mais curieux, à ce que certains ont vu l'appel des appels, qui est une initiative de psychiatres par rapport aux réformes du secteur psychiatrique et notamment ce qu'on veut leur faire faire sur la détection de la prédélinquance dès l'âge de 3 ans, etc., etc. Bon, il y a eu cet appel des appels qui a rassemblé au 104 le mouvement des psychiatres, Sauvons la recherche, Sauvons l'université, l'appel de la colline sur la presse et la réforme de l'audiovisuel, le syndicat de la magistrature et des mouvements culturels, et j'en oublie encore. Donc des secteurs qui ne sont pas centraux dans le salariat, mais qui, mis bout à bout, et les gens, je crois, ne se rendaient pas compte, mais c'était une série de témoignages sur les problèmes qu'éprouvait chacun dans son secteur, les réformes de la magistrature, les réformes de la psychiatrie, etc. Mais si on faisait la somme de tout ça, ce qui ressortait, c'était le sentiment que si toutes ces réformes, prises une par une, finalement, passent, ce n'est pas seulement une défaite sociale, on n'est plus dans la même société, on n'est plus dans le même pays. C'est des choses très profondes de tradition, de solidarité, d'égalité qui sont en train de se défaire. Si on laisse filer ça, on est rentré dans un autre type de société. Et pour cette raison-là, je crois que la riposte, elle est à construire, mais elle est gagnable. Elle est gagnable, c'est-à-dire que ce gouvernement peut être mis en échec politique. Alors, évidemment, ça ne se construit pas en soufflant dessus, et là, ça demande une riposte, évidemment, pour laquelle les luttes de Guadeloupe, en tenant compte de la spécificité, de la question postcoloniale, etc., mais au moins dans l'organisation, la conception de la lutte, a quelque chose d'exemplaire, incontestablement, et fait école, d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion. Donc, sur le plan de construire une plateforme, une lutte unitaire autour de quelques éléments forts, aujourd'hui, et de réponse d'urgence à la crise, ça c'est une chose, et dans l'unité la plus large, maintenant, un des freins, c'est le paysage politique et l'état de la gauche, sur le plan politique. Là-dessus, le camarade à côté de moi est très tolérant sur le temps, bon, je ne vais pas en abuser quand même, mais dire, je crois qu'on a eu le congrès du Parti Socialiste, alors bon, on a discuté. Mais c'est pas assez important. Les gens disent, mais pourquoi vous faites un point aussi important, l'indépendance par rapport au Parti Socialiste, c'est une condition pour des accords unitaires, etc. Mais pourquoi, on va expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, il ne s'agit pas d'un problème de telle ou telle direction du Parti socialiste aujourd'hui. Mais il s'agit de la transformation qu'a connue le Parti socialiste au fil des réformes et des ans. C'est-à-dire que, d'abord, en étant porteur des réformes libérales des années 80, celles que j'ai rappelées, toute la dérégulation, il y a mis la main, et plus qu'une fois. Mais à travers ça, il a contribué à démanteler les mécanismes de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, l'État social, l'État-providence, un certain sens du service public, de la haute fonction d'État, etc. De sorte que si on regarde aujourd'hui, non pas les militants, mais les équipes dirigeantes du Parti socialiste, ils sont en fusion, hein, en osmose, en étant un peu pédant, avec les milieux d'affaires et les milieux d'affaires industriels. C'est le même monde aujourd'hui. C'est plus Léon Blum, Jaurès, etc., ou même... C'est quelque chose qui s'est complètement intégré à ce monde-là. Alors, ce qui fait que on peut se dire « Ah, mais Aubry, c'est plus à gauche que Ségolène Royal. » On ne sait pas. Ségolène Royal, sur la Palestine ou sur les Antilles, a été un peu plus audacieuse que la direction du Parti socialiste, qui a refusé toute participation aux manifestations palestines sous prétexte de ne pas créer de conditions propices ou de se mêler dans des cortèges à des mots d'ordre qui seraient gênants, etc., mais n'a pas non plus bougé beaucoup sur la solidarité avec les mobilisations aux Antilles. Ça, c'est les limites du gauchissement rhétorique aujourd'hui, et on verra la campagne européenne, sur la base du texte signé par tous les partis socialistes européens, c'est dans le cadre du traité de Lisbonne et de la prolongation du traité de Lisbonne. Et ça, je ne crois pas que ce soit une évolution réversible du Parti socialiste. Ce n'est pas une question de volonté de tel ou tel dirigeant. C'est un changement de rapport à la société profondément qui s'est produit. Et l'idée qu'on peut tirer un peu à gauche ce Parti socialiste-là, bon, il faudrait de tout autre rapport de force, et c'est tout le problème. Bon, alors, par rapport à ça, et c'est de là qu'on part. La construction du NPA, c'est quoi ? C'est pas faire un petit contrepoids pour gauchir l'ex-gauche plurielle ou la nouvelle mouture de la gauche plurielle, c'est s'engager dans un projet durable pour disputer l'hégémonie à gauche dans le mouvement social, dans la lutte sociale au Parti socialiste. Bon. Et ça, ça demande de la constance, de la patience et de la clarté. Et ça éclaire à peu près le choix qu'on fait, puisque j'imagine, et j'anticipe, je termine avec ça, la question ne manquera pas de surgir, donc ouvrons le débat, pas exclusivement là-dessus, mais sur la question des élections européennes. Il m'est arrivé la semaine dernière de faire une émission de radio sur Radio Orient avec une journaliste de l'Humanité qui me dit, mais le NPA, moi je ne suis pas à la direction du NPA, hein, mais j'assume, parce que je suis d'accord, les positions qui ont été prises. Elle me dit, mais vous avez mis pour un accord aux Européennes une condition inacceptable. Mais qu'est-ce qui est inacceptable ? De dire qu'on ne veut pas faire un accord électoral à un coup, mais que dire aujourd'hui, parce qu'aux Européennes, il y a un système électoral proportionnel, un coup on fait avec le NPA, et le lendemain, parce que c'est propice au régional, avec le PS. Bon, si on fait ça, il n'y a ni clarté, ni persévérance, ni une orientation tracée qui peut redonner confiance dans la politique. C'est fluctuer au fil du temps et des échéances électorales, et ce n'est pas ce dont on a besoin si on veut reconstruire quelque chose, en étant conscient qu'on part de très bas. Mais, alors, par ailleurs, c'est une condition qui n'a rien de scandaleux. Pourquoi elle serait inacceptable ? Si les gens, nos partenaires étaient loyaux, et s'ils disent « on veut construire un front de gauche, non pas une alliance électorale », un front, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour deux mois. C'est censé être pour durer l'éternité, personne ne sait, ça n'existe pas. Mais enfin, on fait un front, on essaie au moins de travailler pour un an, pour deux ans. Dire, sur l'année qui vient, dans les urnes et dans les luttes, vu les conflits sociaux qui nous attendent, si on n'est pas capable de dire on fait ensemble les européennes et les régionales, bon, c'est qu'on n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de base d'accord pour ça, c'est qu'on n'a pas le même projet politique. Bon, voilà. Alors, nous, on n'a pas renoncé, je pense qu'on mènera encore la bataille là-dessus, parce qu'il faut la faire entendre, cette bataille-là. C'est un vrai problème. Donc voilà, pour ce qui est là des européennes, c'est regrettable. Ça ferme absolument pas la porte, par ailleurs, à tout ce qui est initiative commune contre le traité constitutionnel de Lisbonne, contre ou sur les solidarités aux sans-papiers, etc. Mais quand il s'agit aujourd'hui de présenter, de proposer un projet politique, il faut qu'il ait une certaine clarté et qu'il soit clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas une force d'appoint par rapport à un futur gouvernement à hégémonie socialiste ou par une gestion du même tonneau au niveau des régions. Bon, on a fait l'inventaire dans les réunions du NPA, ce n'est pas une dénonciation globale. Quand on dit la politique qui a été menée, ce n'est pas seulement au niveau national, mais quand on regarde les votes dans les conseils régionaux sur l'hôpital de Carré, sur les politiques de transport, etc., par solidarité régionale, on a chaque fois un grief du même ordre sur des questions qui touchent là à des questions très concrètes du secteur hospitalier, des politiques d'éducation et des politiques de transport. Donc voilà les choses dites assez simplement. Alors maintenant, bon, c'est le début d'une assez longue marche. On essaiera de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. Mais enfin, quand on commence à se mettre en marche, bon, ça peut durer longtemps quand même.
Voilà, c'était donc Daniel Ben Saïd, et vous avez pu l'entendre, Daniel Ben Saïd, qui intervenait hier soir dans un café du 20e arrondissement. Ben Saïd qui ne se contentait pas d'analyser le contexte politique lié et social lié à la crise. Donc voilà, vous n'ignorez donc plus rien des positions de Ben Saïd dans ce contexte pré-européenne et des cuisines internes qui entourent tout ça. Voilà, c'était donc...
Rien à foutre et rien à battre. Surtout faites bien attention. Allez, on y va.
Universal.
Faites pas la gueule.
Universal.
Y'a pas de single.
Universal.
Faites pas la gueule.
Universal.
On n'est pas tout seul. Pour le pognon, n'importe quoi, général, idiot et inadapté, voleur que fait la police, des œufs pourris dans l'omelette, rigolez bien mes poussins, salaud, ça vaut pas la peine.
Oh.
Allez, on y va.
Universal.
C'est pour ça qu'on a signé.
Universal.
Et qu'on sera viré. C'est comme ça qu'on l'a signé.
Universal.
Avec les pieds.
Universal.
Fais pas la gueule.
Universal.
Et y'a pas de single.
Universal.
Fais pas la gueule.
Universal.
On est pas tout seul. Un single sinon la porte. Navré, ça ne m'intéresse pas. Imagine un peu nos rêves. Vachement trop super génial. Évidemment qu'on est fiers. Ramassez bien vos ordures. Saluez bien les artistes. Allez, on y va.
Universal.
C'est pour ça qu'on l'a signé.
Universal.
Et qu'on sera viré. C'est comme ça qu'on a signé.
Universal.
Avec les pieds.
Universal.
C'est pas la gueule.
Universal.
Y'a pas de single.
Universal.
Non, c'est pas la gueule.
Universal.
On n'est pas tout seul.
Universal.
Ouais, c'est comme ça qu'on a signé.
Universal.
Avec les pieds.
Universal.
Allez, fais pas la gueule.
Thank you.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission anti-crise puisque entièrement basée sur l'économie du don, avec ce soir, pour dire des mots dans les micros et ouvrir des tranches avec les doigts, les drôles de dames de la Radio Libre avec Juliette, Sophie et Aude qui dansaient debout sur la table de mixage et piétinaient Charlie. Il y avait aussi Alex, il y aura bientôt Claudie et Claudia puisque Antanan arrive. Ciao.